C'est un vieux cloître qu'on rencontre dans le voisinage de la frontière en Espagne lorsqu'on vient de Cambo. Les quatre faces intérieures, avec leur rangée de cellules, donnent sur un préau que les plantes ont envahi et dont certaines ont la taille d'un arbre. Une galerie à colonnades de pierre couleur de soufre, que la lumière de tant de jours a fini par roser, longe les cellules. Le soleil oblique éclaire la face ouest de la colonnade. C'est un doux soleil d'hiver, apaisé, rêveur, intime, et bien fait pour accueillir, distraire et consoler ce que la vie a blessé. Un doux soleil de ce pays de silence et de mort, où la terre paresseuse ne nourrit sur les pentes de ses monts que des ajoncs et des fougères. De là son caractère et sa poésie. Car l'été fini, les immenses étendues d'un brun roux, couleur d'automne, qu'il offre au regard, s'allieront ne peu mieux à ce climat sédatif, endormant, à cette atmosphère ouatée et d'un charme inexprimable. Je pousse une porte et j'entre dans la chapelle un peu obscure, sonore, où le balancier d'une extraordinaire horloge, par son mouvement lent, solennel et fatal, me fait tressaillir. Tic, un silence, tac, tic, tac. On n'entend que ce bruit, qui tantôt est absent et tantôt redevient toucher l'oreille et nous avertir que l'heure passe et détruit notre vie. Tic, tac. Cet intervalle inaccoutumé entre les deux battements se passe scandé, si raide et si régulier, si implacable du temps qui s'avance, à quelque chose de saisissant. Jamais ne m'était apparu comme en ce lieu la majesté, la sérénité de l'heure qui de toute éternité attendait son tour de paraître à la lumière et qui, sans hâte, sans retard, détachant les secondes comme une fleur ses pétales, par fragments, sans regret, tombe dans le passé. Dehors, le soleil éclaire toujours la partie haute de la fine colonnade dont il a depuis tant d'années caressé comme mûri les pierres couleur de soufre, à cette minute couleur de raie, rubis. Je suis des yeux un peu émus, les pulsations de cette lumière ascendante. Sans pouvoir m'arracher de ce lieu, je vois lentement défleurir, se faner et s'éteindre cette rose flamboyante. Et je songe, comme si je venais de le découvrir, que tout ce qui vit et ce qui respire, les foules qui sur les gradins de la plaza se passionnent dans ce pays au combat de taureaux, et ailleurs, sous les ciels d'argent ou d'azur, ces autres foules qu'assemble un jour de fête, où tant de belles créatures sont une joie pour le regard, où tant de jeunes hommes se servent, se sentent si riches de durée qu'ils croient de pouvoir l'épuiser jamais, je songe que tous mourront un jour, tous, tous, les cœurs séparés comme des cœurs réunis, ceux qui sont heureux et ceux qu'enfièvre l'envie, ceux qui viennent de naître et ceux qui n'ont plus que le souffle, tous, tous, aussi facilement, aussi simplement que cette rose de lumière vient de s'éteindre à mes yeux. En fouillant dans une armoire, j'ai retrouvé ce matin la photographie d'un groupe d'élèves de l'institution Hamel où je figure à 15 ans, parmi les grands. J'ai passé une demi-heure à considérer ces visages qui ne ressemblent plus à rien de ce qui existe aujourd'hui. Beaucoup de mes anciens condisciples sont morts, sans doute, et ceux qui restent, si je les voyais, je ne les reconnaîtrais plus. L'âge, la vie, le travail, le plaisir, ou les tourments, ont marqué chacun d'eux d'une manière différente. Il n'y subsiste rien de leurs traits enfantins. Il en est qui se sont complètement effacés de ma mémoire et de la figure desquels je ne peux mettre un nom. Mais il en est d'autres qui s'animent peu à peu sous mon regard, surgissent hors de ce groupe et se mettent à courir devant moi. Voici Ramagé, qui exerçait une fascination de chef incontesté lorsque nous jouions à la guerre. Voici Lemel, dont la mère était si jolie, et Choléra, qu'on appelait à son grand désespoir Choléra, et Lebas, qui avait toujours dans son pupitre une boîte de lait condensé. Pour un sou, ses voisins avaient le droit d'y plonger deux fois la manche de leur porte-plume. Je revois nos cahiers de brouillon parsemés de pâtés d'encre, que nous léchions d'une langue ignorante des principes de l'hygiène. Je ferme les yeux, je me rappelle l'étrange goût d'ail qu'avait cette encre ainsi que l'odeur de bois, de cèdre, de ces crayons. Temps innocent, dont le souvenir me ravit aujourd'hui. Pourtant, je ne fus pas heureux dans cette pension. Son directeur, M. Hamel, ne pouvait me souffrir. Il me trouvait trop raisonneur. Il me rendait responsable des mêmes fautes de toute la chose. Toute la classe. Un jour qu'il était mal luné, il me gifla. Je pouvais avoir 12 ans. Sous le prétexte que, pour lui répondre, je tenais la tête penchée de côté. Oh, sa seule présence tarissait en moi toute chaleur, tout élan, et je puis dire toute bonne volonté. C'est qu'il avait fini par m'inspirer les propres sentiments dont il était animé à mon égard. Un samedi, à propos d'une peccadille, il me priva de ma sortie du dimanche, sachant fort bien qu'une de mes tantes était en ce moment à Paris et que pour cette raison, je tenais beaucoup à ma sortie. Oh, je ne fus pas stoïque. Je me mis à pleurer, la tête cachée dans mon coude replié. Une demi-heure plus tard, il revient et il me trouva dans la même position. « J'étais venu pour lever la punition, me dit-il. » Si je t'avais trouvé bien sagement occupé à faire tes devoirs, c'était chose faite. Mais, puisqu'il te plaît de jouer la corde, l'après-midi, eh bien, la punition est maintenue. Étrange raisonnement. Car enfin, l'attitude qu'il me recommandait pouvait aussi bien signifier que je n'avais pas grand désir de voir ma famille. Encore, si son enseignement avait prétendu faire de nous des catons, mais nullement. Lorsque deux élèves se battaient, on entendait souvent le vaincu brailler comme un écorché durant toute la récréation, sans que personne lui fît honte de sa lâcheté. Lui-même, Monsieur Hamel, quand je perdis mon père et que je revins après la cérémonie mortuaire, prendre ma place parmi mes camarades, parce que je ne m'abonnais aux armes, aux larmes que le soir, au dortoir, seul dans mon lit, à l'abri des indiscrets, et que chaque jour je le montrais mon visage fatal par lequel, sans doute, il jugeait qu'il était séant de manifester sa douleur filiale, lui-même ne s'écria-t-il pas « Cet élève n'a pas de cœur, le pauvre homme !» Il me connaissait bien. Je me suis souvent demandé comment un pédagogue de cette expérience avait pu se méprendre à ce point sur le compte d'un enfant intelligent et sensible, de qui on pouvait tout attendre par moyen de la douceur et rien par la rudesse, ainsi que le démontre toute ma vie écoulée auprès de la plus tendre mère, dont la chère faiblesse toute puissante sur moi en obtint toujours ce qu'elle voulut. L'enfant qui ne se sent pas aimé, son cœur se ferme. Si vous le punissez injustement, une fois, deux fois, bientôt toutes les punitions du monde sorteront à un être raidi, buté. C'est un mauvais système d'agir sur lui par la crainte au lieu d'en appeler à sa conscience. Tu peux ceci, je le sais. Mais si tu le veux, tu le feras. Si tu ne le fais pas, tu es coupable, et quelque chose en toi ne sera pas content. Tu pourras jouer, rire, t'étourdir, te croire parfaitement tranquille. Une petite voix intérieure te reprochera de n'avoir pas fait ton devoir. Éveiller, s'il se peut, ce sens du devoir. Parler à ce qu'il y a d'incertain, de mal assuré, mais de déjà noble dans un jeune esprit, lui révéler ses régions élevées, lui donner peu à peu le sentiment de sa responsabilité, de sa valeur, de son importance, au risque de lui inspirer un peu d'orgueil. Combien d'éducateurs sont capables de cela? Pour ma part, que de fois ai-je entendu prononcer avec rage, regret ou réprobation, cette petite phrase qui m'emplissait secrètement de fierté. Cet enfant n'est pas comme tout le monde. De fait, je ne partageais guère les jeux bruyants de mes camarades. De santé débile, inégale d'humeur, en proie à d'exaltantes tristesses, je recherchais le silence. J'allais, durant les récréations, mirer aux vitres des classes mon visage morose. J'aimais déjà la solitude. Je fus privé une année du plaisir d'assister au dîner de la Saint-Charlemagne. Monsieur Hamel, par punition, m'envoya coucher de bonne heure. Je m'en consolais en pensant que j'étais le seul de toute la pension, le seul à qui ce sort était réservé. Le grand dortoir, son ombre, sa paix, m'appartenaient. Le festin dont j'étais exclu, je n'y songeais guère. Je n'avais pas à faire partie d'un troupeau, à être gai sur un signal. Pour quelques heures, ce soir, j'échappais à la règle. J'étais l'objet d'une exception. Oh, j'y goûtais une sorte de charme. Plus tard, combien de fois ne m'a-t-on pas dit « Tu n'aimes pas cette chose, mais tout le monde l'aime. Tu es le seul de ton avis. » Le seul. J'aurais bien voulu qu'il en fût ainsi. Être singulier d'une façon naturelle, sans ruse, sans tricherie, sans déguisement. Au vrai, je ne le fus que par mon entêtement à vivre. Ma volonté de trouver une excuse à tout ce que nous ne pouvons pas comprendre et qui nous paraît cruel dans la nature. Ma renonciation aux joies qui ne sont point indispensables. Et à une époque où la folie règne sur ce monde, mon humble sagesse. Bientôt il fut évident que je n'apprendrai plus rien dans cette pension. Je hâtais mes devoirs en 5 minutes. Je n'avais de goût que pour la lecture. Mon meilleur ami, cette année-là, fut certainement Poitevin, un externe dont les parents avaient une bibliothèque inépuisable et qui me faisait, en cachette, passer des romans. Romans d'aventure, histoires merveilleuses qu'on lit à l'étude du soir, à l'aide d'un dictionnaire sans cesse en alerte, sans cesse attentif à ne pas paraître trop absorbé. Ferveur de la découverte, émotion abolie. 6 ans plus tard, ayant depuis longtemps quitté l'institution Hamel, les romans occupaient encore mon esprit. Mais cette fois, je ne me contentais pas d'en lire, j'en écrivais. Quel genre de roman pouvait concevoir, aux environs de 1893, un tout jeune homme, non pas élevé, mais couvé, chéri par la plus aimante des mères, et qui toute sa vie eut pour devise « Je ne crains que mon cœur ». Et tu demeures et de caractère. Il ne connaissait rien des hommes, et pour ce qui est de lui-même, il ne connaissait guère que le trouble, l'émoi, la fièvre, le tourment, l'amère délice dont l'emplissait l'attente, la vue, la présence, le souvenir ou le regret de la femme aimée. Avec lui, dans les régions même de l'amitié, il traînait toujours un peu d'amour. L'amour lui apparaissait tout naturellement comme la plus douce chose de la vie, et bien mieux, comme la plus importante, la seule. Aimer, il lui semblait qu'il n'y avait rien au monde de plus beau. Un tel être, les racines de ses pensées sont dans un cœur. C'est le cœur qui leur donne ces couleurs si tendres et parfois, il se peut, si charmantes. Je fus cet être plein de candeur, de naïveté, qui n'aperçoit pas l'envers d'égoïsme qu'il y a dans tous les sentiments humains. La femme que j'aimais, je n'étais pas à son niveau, mais bien au-dessous d'elle, et je devais humblement les yeux pour l'admirer. En réalité, elle ne pouvait être aussi bonne ni aussi mauvaise que tour à tour je le croyais, car ce n'était ni meilleur ni pire que la plupart des femmes. Elle était une femme. Mais je n'avais pas alors, je ne savais pas que sur une femme qui veut être dominée, toujours la force, la ruse et l'expérience auront plus de prise que la fraîcheur, la jeunesse et la sincérité. Je ne savais pas alors que la vie n'épargne pas le faible, et qu'en amour, hélas, les tendres sont des proies. Et quand parut mon premier roman, Sarcey, auquel il avait été envoyé, comme à tous les critiques de ce temps-là, le prit par hasard et le mit dans sa poche un jour qu'il se rendait à Nanterre. Il le lut dans le train et, comme un brave homme qu'il était, il entreprit le soir même, par un grand article, de le faire connaître au public. À la suite de cet article, de divers côtés, on demanda à M. Hamel « Est-ce que le Louis de Robert n'est pas votre ancien élève ?»« Bon, je ne sais pas, oui, ça doit être lui. » Il lut ces éloges que Sarcey me décernait et se découvrit alors pour moi un intérêt sans bornes. Un matin, il sonnait à ma porte. On l'introduisit dans une pièce qui me servait de cabinet de travail, où je le fis attendre un grand moment. Quand je parus, il vint à moi, me serra chaleureusement les mains. J'avais quitté un homme tranchant, autoritaire et obéi, et je retrouvais, dépouillé de tout prestige, un individu commun d'apparence subalterne qui sentait la pharmacie. Il me félicita de mon succès, me dit qu'il m'avait toujours tenu pour un esprit très doué. Nous étions debout. Il me tapait sur l'épaule, s'efforçant de se montrer bourru, cordial et familier. Puis il me fit part de l'ambition modeste qu'il avait de voir s'arrondir en rosette son ruban d'officier d'académie. Je ne le bronchai pas et pris plaisir à l'embarrasser par mon silence. Oh, ce n'est pas que je sois enclin à la rancune, mais je ne pouvais perdre de vue que cet homme ne m'avait jamais aimé, que ce n'était pas la sympathie, mais la curiosité, un peu de vanité même, qui aujourd'hui le ramenait vers moi. Il me pria de lui donner mon livre. J'objectais qu'il m'en restait plus d'exemplaires à la maison. Alors il faudra me l'envoyer, j'y tiens, un ancien élève. Promettez-moi de l'envoyer sans faute, et avec une belle dédicace encore. Je dois dire qu'il ne le reçut jamais. Mais comme il avait son idée, je sus plus tard, par un de mes anciens camarades, qu'un tendre figurait bien en vue sur la table de son salon, orné de cette dédicace qu'il avait dû effacer et tracer lui-même en déguisant son écriture à M. Hamel, en reconnaissant de tout ce que je lui dois son ancien élève respectueux. Que des bêtes domestiques adaptées à l'homme par atavisme, que certains insectes habitués à vivre dans nos maisons nous reconnaissent sans nous avoir jamais vus et se comportent familièrement avec nous, cela se conçoit. Une mouche vulgaire se pose sans façon sur votre nez et chassée revient avec flegme, malgré le terrible cyclone que représente pour elle un simple coup de mouchoir. Vous la voyez se promener philosophiquement sur la surface lisse d'une vitre, sachant qu'il est vain de chercher à franchir cet obstacle transparent, alors que la guêpe ou l'abeille, attirée dans la cuisine par l'odeur de confiture, est si astucieuse qu'elle a trouvé le moyen d'entrer par le trou de la serrure, montrera quand elle voudra sortir, en se heurtant 20 fois à cette même vitre, une stupidité qui nous confond. Semblable à l'abeille est cette hirondelle qui tout à l'heure tenait désespérément de s'évader de ma chambre où par imprudence elle s'était aventurée. À peine l'avais-je vue entrer que sournoisement j'avais refermé la fenêtre. Dès qu'elle se vit prisonnière, elle s'affola. Ses ailes puissantes faisaient un tel déplacement d'air qu'à quelques mètres au-delà j'en avais le visage ventilé. Elle allait de la glace à la cheminée, de la cheminée à la glace, de l'armoire, s'y heurtait, s'y meurtrissait la tête, tellement acharnée à trouver une issue, qu'elle se fût tuée sur place si je l'avais délivrée. Aussitôt qu'elle vit la fenêtre ouverte, elle partit de sur place, d'un seul élan, tout droit, avec une telle magie de vitesse, que tandis que mes yeux étonnés la cherchaient au-dessus de sa noix, elle était déjà à Montmorency. Évidemment, c'est l'instinct exaspéré de la liberté qui trouble, si je puis dire, le jugement de cette abeille, de cette guêpe, de cette hirondelle, si intelligente par ailleurs. Car les bêtes, les insectes, les moins familiarisés avec nous, témoignent parfois de la manière la plus saisissante qu'ils nous comprennent et pénètrent nos intentions. C'est ainsi que, passant un jour de l'automne dernier, devant une de ces grosses araignées brunes et rayées de gris qui en octobre envahissent nos jardins, je m'amusais, me trouvant à l'envers de sa toile, à l'ennuyer d'une pichenette à quelques pas de là. Le lendemain, elle avait repris sa place, mais dès qu'elle me vit, elle me reconnut, et sans m'attendre, sauta prestement dans le gazon, avec un air de me dire « Ah, ça, mon vieux, ça prend pas 2 fois, cette plaisanterie-là !» À l'autre jour, c'est un crapaud que je rencontrais dans l'allée, avançant par bonds maladroits et retombant chaque fois avec un petit bruit flasque. Je m'approchais. Il cessa de bouger, averti par un instinct infaillible que l'immobilité abuse l'adversaire. Et c'était là un génial musicien qui, caché en deux pierres, exhale dans la nuit sa note unique, ce son de flûte triste, les pattes repliées, son ventre palpitait de peur. Je me penchais et, à l'aide d'un brin de paille, je lui chatouillais le cou. À ma grande surprise, il comprit que je lui voulais du bien, et c'est avec un plaisir visible qu'il me tenait obliquement son pauvre cou pustuleux d'un mouvement câlin, comme lui fait une chatte. Qui lui avait appris à ce crapaud, peut-être inconscient de sa laideur, mais craintif et pour chasser le tous, qu'il existe une douce chose par quoi l'homme témoigne un peu d'amour ou seulement de sympathie aux plus humbles êtres et qui s'appelle la caresse. Et ce rouge-gorge, qui fut un moment compagnon de ma solitude, qui lui révéla l'amitié. Il était tombé du toit dans un conduit de fumée et de là, dans le fourneau de la cuisine, où il avait passé la nuit et où il faisait un bruit d'ailes qui effrayait ma vieille bonne. « N'ose pas allumer le feu, il y a quelques bêtes là au-dessus que je vais faire rôtir, bien sûr. Oh, moi, ça me fait peur, c'est peut-être une chauve-souris. » J'ouvris le four. Dans la partie inférieure, il y a une petite trappe que soulèvent les ouvriers fumistes quand il ramène le fourneau. Sous cette trappe était l'oiseau. Je le pris dans ma main. Il se laissa faire. Et comme il était couvert de suie, je l'en débarrassai comme je pus à l'aide d'une serviette. Je lavais à l'eau tiède son bec et surtout ses petits yeux de jais brillants dont je guéris ainsi la cécité. Ensuite, j'ouvris la porte de la cuisine qui donne sur le jardin et lui rendis la liberté. Il alla se percher sur le marronnier qui est devant la fenêtre de ma chambre, et je remontai dans celle-ci, et bientôt, j'entendis frapper au carreau. C'était le rouge-gorge qui, sur la barre d'appui, heurtait du bec la vitre comme pour me remercier. Certains trouveront que j'exagère et moi-même me suis demandé à ce moment-là par quel miracle d'instinct il avait pu savoir que c'était là ma chambre et que je m'y trouvais. N'était-il pas plus vraisemblable que, sortant de sa prison, encore à demi aveugle, il se heurta sans intention aucune à tout ce qu'il rencontrait. Mais alors, pourquoi adopta-t-il désormais mon jardin? Pourquoi, dès le matin, quand on écartait mes persiennes, était-il là, sur le marronnier, qui faisait entendre son léger cri? Et pourquoi, l'après-midi, venait-il s'établir sur le sorbier qui ombrage le petit kiosque où généralement je passe mes journées? Ma mère l'appelait « Puis, puis !» Il descendait, sautillait sur le sol auprès de nous, plus chatoyant qu'un bijou. Puis, il s'envolait avec un petit bruit de soie. Il était si bien familiarisé avec les gens et les choses qui nous entouraient que lorsque le père Jérôme, un jardinier à façon, venait retrouver la terre du potager, il le suivait pas à pas pour happer chaque ver que sa houe découvrait. Le père Jérôme disait « Ça n'a pas peur, cette bestiole-là. C'est pas fier. Oh, je n'ai pas vu beaucoup de comme ça. » Et un jour qu'il travaillait au potager, nous entendîmes qu'il poussait une exclamation désolée. Puis il vint à nous et dit à ma mère, Madame, j'ai fait un malheur. J'ai tué le rouge-gorge. Vous avez tué le rouge-gorge? Oh, c'est sans le vouloir, bien sûr. Il était si tard qu'il venait entre mes jambes sans que je le voie. J'avais affaire à une motte de terre un peu dure. Alors je donne un coup dessus et, malheureusement, c'est le rouge-gorge qui l'a reçu. Ainsi périt, par excès de confiance, mon petit compagnon aérien, le seul parmi tant d'oiseaux qui m'entourent en été, à cause d'un vieux parc abandonné, voisin de mon jardin, où ils gîtent en grand nombre, le seul dont il m'eût été donné de conquérir l'amitié. Oh, c'était un peu avant la guerre. Temps révolu, temps idyllique, où la mort d'un rouge-gorge était un événement. On ne doit pas la vérité à tout le monde. Autrefois, je me faisais un tel devoir de dire à quiconque m'interrogeait, carrément, remettant certains manuscrits à mon éditeur, comme il voulait savoir si j'en étais satisfait, je répondis, « Oh non, je crois que ce n'est pas fameux. » Et je vis aussitôt qu'il hésitait à le publier. Évidemment, cet homme intelligent, par ailleurs, ignorait que le contentement de soi est souvent le signe d'une grande médiocrité d'esprit. Il faut avoir une nature d'artiste pour comprendre le désenchantement de l'artiste devant l'œuvre qu'il a réalisée. En la concevant, il n'entrevoyait que des trésors sans prix, la beauté, miracle qu'il n'avait jamais atteinte. Mais quelle différence entre l'œuvre conçue et l'œuvre réalisée! À mesure qu'elle se précise, comme elle se décolore, comme elle pâlit, se rapetisse et nous déçoit. Quel que soit le talent ou le génie d'un homme, jamais la main n'a tenu les promesses de l'esprit. Jamais l'ouvrier n'a égalé le créateur. Il est vrai que l'artiste vit dans une telle illusion. Il est si vibrant, si mobile, qu'à cause d'un détail rectifié, il est capable de s'enthousiasmer demain pour une partie de son œuvre qu'il exècre aujourd'hui. Zola, quand il écrivait un livre, passait généralement par trois phases. D'abord, l'enthousiasme pour son sujet. Pendant le premier tiers, il répondait à qui l'interrogeait « Oui, ça va, ça marche. » Au second tiers, découragement. Et au troisième, reprise d'espoir et d'optimisme. Or, le directeur d'un grand journal avec lequel il venait de traiter à prix d'or pour la publication d'une œuvre nouvelle, rencontrant le grand romancier pendant qu'il traversait la seconde phase, ne put se tenir de lui demander des nouvelles de l'œuvre en quatrain. Oh, exécrable, mon bon ami, exécrable! C'est au-dessous de tout. Quand le roman fut terminé, l'autre marqua une grande perplexité. On le vit un moment tourmenté par une objection qu'il hésitait à formuler. Enfin, il se décida. « Mon cher maître, cette partie qui ne vous plaisait pas, vous ne l'avez pas laissée ainsi. J'espère que vous l'avez revue, que vous l'avez refaite. » Non, non, on ne doit pas la vérité à tout le monde. On la doit qu'à ceux qu'on aime. On ne la doit qu'à ceux qu'on aime. Avec cela, la sincérité qui consiste à penser tout ce qu'on dit ne me suffit pas. Je veux la franchise qui consiste à dire tout ce qu'on pense. Il me semblerait que je suis coupable si je dissimulais la moindre de mes pensées à l'être que j'aime le plus au monde. Mon premier devoir est de n'avoir aucun secret pour lui. car le don le plus précieux que je puisse lui faire, c'est celui de ma confiance absolue. Je souhaite non pas qu'il fasse de moi une idée trop favorable, mais qu'il me voie tel que je suis. Je veux être transparent à ses yeux. Si je lui cachais quelque chose, il me semblerait que je lui fais tort, que je le trompe, que je le trahis. Mais avec les autres, les indifférents, si cet ingénieur, pour occuper les loisirs de sa retraite, s'amuse à barbouiller des toiles et, se croyant un grand peintre, les montre à tous orgueilleusement, vais-je le détromper ? Pourtant, si c'était mon frère ou mon meilleur ami, ne devrais-je point lui dire « Attention, amuse-toi si tu veux à ces innocents coloriages, mais ne les exhibe point avec tant de naïve satisfaction, car tu divertis le monde à tes dépens. Celui qui m'est cher, je souffre de ses erreurs, de ses maladresses, et je suis brusque avec lui, alors que je suis doux et poli avec le premier venu. Une mère grondera son petit garçon parce qu'il a son vêtement déchiré ou seulement de l'encre au doigt. Elle sera pleine de mansuétude en entendant une de ses amies gronder son enfant pour un motif analogue. Vis-à-vis de celui-ci, elle ne se sent pas responsabilité. Son éducation ne lui incombe pas. Elle n'a pas pour mission de lui préparer un meilleur avenir. Elle dira, « Allons, c'est fini, il n'a pas fait exprès, ne le grondez plus. » Elle ne sera sévère et véridique qu'à l'égard de son propre enfant. Il est bon qu'avec le commun des mortels, la politesse s'accompagne, excuse ou déguise notre indifférence. Malheureusement, la politesse, comme toute chose, a ses abus. Certes, il est délicat de dire à autrui, quand on lui rend service, « Souffrez que j'agisse ainsi, vous m'obligerez en acceptant, l'honneur est pour moi. » Cela ne trompe personne. Mais qui, vivant en société, résiste à la tentation de forcer, de majorer les termes d'un compliment. Oh, vous avez un magnifique talent, signifie, vous avez un certain don que j'estime. La politesse, comme le soleil, a tout fait de transformer une loque en oriflamme, et seuls des yeux neufs voient de l'onyx et de l'or là où il n'y a que du plâtre peint. Il faut donc être bien naïf pour se laisser prendre, comme je le fis autrefois, à la marque d'intérêt que voici. C'était une soirée chez Alphonse Daudet. J'étais fort jeune, seul de mon âge et assez intimidé. Maurice Barrès vint s'asseoir à côté de moi sur un canapé. « Préparez-vous quelque chose ? À quoi travaillez-vous ? » J'ouvrais la bouche pour répondre, quand je vis que la politesse, faite sans plus s'occuper de moi, il se tournait déjà vers un seigneur de plus d'importance. Évidemment, c'est un jeu pour quiconque a un peu d'expérience de réduire à sa vraie valeur toute manifestation de pure courtoisie. Instinctivement, on rectifie, on met au point, on prend peu à peu, et tout naturellement l'habitude de retrancher à tout ce qui vous est dit d'aimable ou d'élogieux. Et il me faut bien. Celui qui a reçu des dieux le plus extraordinaire don verbal, qui a été départi de nos jours à un cerveau féminin, m'écrivit 10 ans avant de me faire l'honneur de sa visite et à propos d'un livre de moi qui connut quelques lecteurs délicats. Je vous regarde, monsieur, comme un esprit élu par la puissante destinée qui prend quelques-uns par la main et les mène le long des abîmes, par les gels, les ouragans, les soleils et le mortel ennui vers cette gloire qui ne serait rien pour vous s'il n'était l'amour, l'amour de tous les êtres jusqu'à la fin du temps. Qu'eût-elle donc écrit à Flaubert, à Hugo, à Chateaubriand ? La femme d'un grand poète qui m'avait connu fort malade, se trouvant quelques années plus tard en visite dans une maison où je passais une partie de l'hiver, demanda à me voir. Dès que je fus annoncé, elle s'écria « Merveilleux ! Oh, mais quelle mine superbe ! Mais c'est une résurrection !» Je traversais pendant ce temps une galerie obscure et n'avais pas encore atteint la région éclairée où elle se trouvait. Elle ne pouvait donc pas me voir. Hervieux, qui était la droiture même, qui aimait à distribuer justice, à traiter chacun selon son mérite ou son rang, défendait auprès de moi un jeune homme comblé par la naissance, la fortune et le talent, et que je trouvais trop louangeur, trop caressant, trop prodigue d'une amitié superficielle ou feinte. En somme, c'est gentil de vouloir faire plaisir à tous. Cela part d'un bon naturel. N'importe, je préfère ceux qui portent leur velours en dedans. Et je pense, comme les Espagnols, que celui qui vit dans le miel a quelque chose de gluant. L'enfant qui regarde un nuage cherche dans le dessin de ses bords la ressemblance d'une figure d'homme, et la cherchant, il la trouve. On finit toujours par voir dans le ciel ce que l'on veut. Ce matin, l'azur intact offrait aux yeux la chaude coloration des ciels d'Orient. Mais de petits nuages ont émergé bientôt de la cime des sapins. Certains étaient si gracieux de forme, si arrondis, qu'on eût aimé à les caresser de la main. Il en venait sans cesse, qui se cherchaient, se joignaient, se soudaient pour former peu à peu une masse imposante dont les contours se découpent maintenant à la façon d'un rivage sur une mer immobile et bleue. J'ai ainsi au-dessus de moi, comme un géant atlas ou figure de vastes mondes. Avec un peu de bonne volonté, je crois voir l'Afrique en forme de pyramide renversée, un peu creusée à l'ouest et en partie trouée au nord. Voici la mer Rouge, la vallée du Nil, l'Égypte. Je songe à la mort de Philae, où Loti, nous montrant la caverne murée du dernier bœuf, Apis, rappelle l'émotion qui saisit l'égyptologue Mariette Bey lorsque, sur le sable, il aperçut très net l'empreinte laissée par les pieds nus d'un homme qui en était sorti 37 siècles auparavant. Et peu à peu, je m'abandonne au fil de ma rêverie. Je ne sais plus dans ce jardin si je suis à Andaï, dans la petite maison de Loti, où j'avais pris la douce habitude autrefois, quand j'étais jeune encore et que j'avais l'illusion de la santé, de passer chaque année une partie de l'été. Je suis dans la tourelle bâtie à l'extrémité du jardin, sur la Bidassoa. J'entends sous ma fenêtre de petits bruits furtifs, quelque chose comme des chuchotements, des rires étouffés. C'est l'eau, tapie au creux des sables, qui commence à s'éveiller de sa torpeur sur un ordre mystérieux. Elle pousse en avant une petite vague timide qui, avec des bonds maladroits de jeune animal, se heurte à chaque pierre, retombe et cependant gagne du terrain. Elle s'élargit, elle s'enfle, sans cesse accrue par une source intérieure et inépuisable. Et déjà, elle effleure la dernière marche des escaliers qui contournent ma tourelle. Elle la touche, elle la caresse, elle s'en empare, s'y étale et monte, monte avec un léger clapotis qui rafraîchit l'oreille aux heures chaudes de l'après-midi d'été. Ainsi ressuscite pour moi le charme un peu mêlé d'ennui de mes séjours en Dai, particulièrement au moment de solitude que j'employais à lire ou à rêver. Est-il d'ailleurs un coin de terre mieux fait pour la rêverie? Tout dans ce pays porte la paresse. Il y a en lui comme une soumission à la fatalité, et je l'aime pour l'action inexplicable qu'il a eue toujours sur moi et qui ressemble à l'enlisement. Je l'aime pour un parfum si triste, pour son doux et attirant secret. Et je pense à celui qui fut mon plus sûr, mon meilleur, mon plus grand ami. Je pense à sa vieillesse, à tristé par la maladie, alors que nous le crûmes si longtemps, nous qui l'aimions, que sa jeunesse serait éternelle. Je me rappelle nos causeries, coupées de silence, sur la terrasse d'où la vue est si belle, tandis que passait et repassait dans l'air l'odeur amère d'un grand laurier. Mille souvenirs m'assaillent, qui s'éveillent un à un, font un petit bruit d'ailes et puis s'éteignent doucement, comme un murmure d'abeilles endormies par le soir. Une fois, dans cette étroite petite salle à manger, étouffée par des portières que je revois si bien, je signalai à mon hôte une fissure de la cheminée. Voyez comme la fumée sort par cette fente. Et pourquoi, me dit-il, voulez-vous l'empêcher de sortir par aussi ça lui plaît? Nulle plaisanterie dans cette réponse. Tout l'attit est dans cette soumission à la volonté des choses. Par là s'explique la séduction exercée sur lui par l'islam. Que de fois, durant nos courtes soirées, je le vis distrait, rêvant à son cher Stamboul, le seul lieu du monde où il eût aimé vivre. Il me parlait de ses amis turcs, du sultan Abdul Hamid, pour lequel il avait un faible que je ne pouvais pas comprendre. Comment cet être, tout de générosité, put-il se prendre d'amitié pour ce prince féroce et sanguinaire, ensorcellement de ce pays, prestige du passé, grandeur et puissance du padishah? Je me souviens qu'à un de ses retours de Constantinople, Loti me confia, non sans quelque mystère, que le sultan inquiétait ses dignitaires, ses serviteurs, enfin tous ceux sans doute qui redoutaient pour leur charge ou sur leur emploi un changement de décor, parce qu'ayant passé l'âge de l'amour, ils s'étaient épris d'une belle esclave circassienne, ce qu'on appelle là-bas une conformité. Il me parlait avec l'instinct affectueux qu'on prend à la suite d'un ami, à sa santé. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est la fin de l'aventure qui est tragique. Les médecins de sa hôtesse ne lui avaient fait respectueusement observer que ses forces avaient besoin d'être ménagées. On imagine les combats que dut se livrer à lui-même cet homme voluptueux et cruel. Chaque fois qu'il quittait la créature dont il était possédé, il se promettait de renoncer à elle. Mais le lendemain, il sentait renaître plus ardent les feux du désir. Il mirait à la glace sa maigreur, son teint livide, son dos voûté. Et ce tyran, qui tremblait à l'idée de la mort, changeait de chambre chaque nuit afin de prévenir un attentat possible, en constatant au miroir son épuisement physique, voyait en lui son propre assassin. Enfin, son parti fut pris. Il donna un ordre et par un de ces 12 soirs d'Orient, où la nature, mieux qu'ailleurs, verse aux faibles hommes l'enchantement d'exister, la belle esclave, comme dans un sac, fut jetée vivante dans le Bosphore.